C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM. Comment agir pour les personnes en situation de handicap ne pouvant elles-mêmes s'occuper ou très mal de leur santé dentaire? Bien, en apportant de l'aide aux proches aidants qui les soutiennent. C'est donc par ce biais que l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire en France, agit en informant, sensibilisant, formant ces aidants familiaux qui agissent auprès de leurs proches handicapés. Avec nous aujourd'hui, deux spécialistes, deux chirurgiennes dentistes de la Fédération pour de l'Union pour l'Union Française pour la santé bucco-dentaire, qui vont donner des conseils aux proches aidants, mais également aux aidants professionnels, car ils en ont également besoin.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et on retrouve notre invitée Anne Carlet, docteur Anne Carlet, chirurgien dentiste, secrétaire générale de l'UFSBD, l'Union Française pour la santé bucco-dentaire. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous en studio. On aura tout à l'heure Anne Abbé Denisot, qui est également chirurgien dentiste. On l'aura au téléphone. Je voulais qu'on commence par parler de l'état bucco-dentaire des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a vraiment un problème ?
Alors effectivement, la santé bucco-dentaire des personnes dépendantes en situation de handicap ou âgées en institution est une vraie problématique de santé publique. Et les pouvoirs publics s'en sont emparés de cette problématique. Et l'UFSBD, donc, qui œuvre pour la prévention bucco-dentaire au quotidien, intervient à de nombreuses reprises vers les établissements, vers les aidants, pour apporter de la formation, les former, apporter de l'information qui va permettre d'améliorer la santé bucco-dentaire de toute la population et en particulier des populations les plus fragiles, donc les personnes en situation de handicap et les personnes dépendantes.
Oui. Vous adressez à toute la population française pour la santé bucco-dentaire, mais là, sur cette émission, on va parler spécifiquement des personnes en situation de handicap.
Tout à fait.
Alors, ces personnes en situation de handicap, quel problème elles rencontrent ?
Alors tout d'abord, elles ont une diminution de leur capacité motrice, psychologique, donc elles ont besoin d'être aidées dans leurs gestes au quotidien. Et c'est la problématique de ces aidants qui vont intervenir au quotidien sur les gestes du quotidien qui peut éventuellement poser problème.
Oui, on peut imaginer par exemple qu'une personne avec un handicap mental, une personne qui aurait un syndrome de Down, aurait des difficultés à se brosser les dents.
Alors oui, elles peuvent très bien être formées, on peut les sensibiliser, leur montrer des techniques d'hygiène et on fait en sorte effectivement, tant qu'elles ont un maximum d'autonomie, on essaie de conserver cette autonomie. Alors en adaptant les outils de brossage par exemple, en utilisant préférentiellement par exemple une brosse à dents électrique, pour une personne qui va avoir des difficultés à effectuer son brossage du rose vers le blanc, comme on peut l'expliquer effectivement à tout un chacun. La brosse à dents électrique peut être une chose. Il peut y avoir des brosses avec des manches ergonomiques qui permettra à celles qui ont des difficultés de préhension de pouvoir continuer à effectuer leur brossage avec des outils donc adaptés. Les ergothérapeutes travaillent sur ce sujet et peuvent mettre en place effectivement des outils adaptés aux besoins de chaque personne qui peut rencontrer un handicap.
Oui. Et puis, une personne tétraplégique, par exemple, qui ne peut guère mouvoir ses membres supérieurs, elle peut se laver les dents ? Comment ça se passe ?
Alors ça, c'est vraiment à adapter au cas par cas. Il faut réellement voir si on peut adapter les choses. Et si ça n'est pas possible, eh bien, c'est l'aidant qui va effectuer les gestes à sa place.
Oui. Et s'il n'y a pas d'aidant ?
S'il n'y a pas les dents, ben c'est une véritable problématique. Mais je pense qu'une personne tétraplégique est prise en charge d'une manière ou d'une autre par des structures qui vont répondre effectivement aux problématiques quotidiennes de cette personne.
Oui, alors parlons du danger justement de ne pas se brosser les dents parce que on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas le temps, parce que on n'en est pas capable.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la carie n'est pas une fatalité. On pourrait, avec tout ce que l'on sait effectivement sur la carie, éviter la carie. La carie est évitable avec des actions au quotidien toutes simples. Le brossage des dents, l'utilisation d'un dentifrice fluoré, la visite chez le chirurgien dentiste une fois par an et Alors, faire attention à son alimentation. Ce sont quatre points, effectivement, qui sont les socles de la prévention bucco-dentaire qui vont permettre de maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Et qui dit bonne santé bucco-dentaire, une bonne santé en général, puisqu'il y a des liens très étroits entre la santé bucco-dentaire et la santé générale.
Ah oui, oui, on a de mauvaises dents, on va avoir mal au ventre, c'est ça.
Effectivement, on peut avoir déjà des problèmes de dénutrition, avec tout ce que cela entraîne comme complications, en particulier chez les personnes âgées. On peut avoir des problèmes infectieux à distance, des bactéries qui sont dans la bouche peuvent tout simplement par inhalation aller au niveau des poumons, entraîner des infections pulmonaires. Ces bactéries peuvent passer dans la circulation sanguine et aller à distance, donc infecter des organes comme les reins, le cœur, les poumons aussi, etc. Et des phénomènes inflammatoires liés à des problèmes bucco-dentaires qui peuvent avoir des répercussions aussi à distance, comme des tendinites, etc.
Oui. On peut mourir d'une mauvaise santé bucco-dentaire, c'est-à-dire qu'on ne se brosse pas les dents. On peut
mourir encore actuellement des complications d'une carie dentaire.
Oui. Et alors, il faut, dans le temps, on arrachait les dents, c'est ça, et ça suffisait.
Alors aujourd'hui, malheureusement, il nous arrive encore d'extraire des dents qui ne peuvent pas être soignées, qui sont trop délabrées ou qui ont des problèmes infectieux que l'on n'arrive pas à résoudre par les traitements classiques. Donc, on va vers les extractions dentaires. Mais aujourd'hui, effectivement, on essaie d'être le plus conservateur possible. Et donc, on porte toujours, effectivement, notre prévention en amont, en répétant effectivement les gestes qui permettent de garder une bonne santé bucco-dentaire. Et puis le fait d'aller chez le chirurgien dentiste une fois par an permet effectivement de pallier toutes les petites problématiques et une petite carie qui apparaîtrait sera soignée avant que l'organe dentaire ne soit trop délabré, ce qui permettra de conserver la dent en bouche.
Oui, Anne Carlet, vous êtes avec nous, vous restez avec nous, on va prendre en ligne Anne Abbé-Denisseau, chirurgien dentiste et vice-présidente de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire, et responsable de la santé publique. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, on a deux Anne avec nous pour cette émission, toutes les deux chirurgiens dentistes. Anne, je ne sais pas si vous avez entendu notre conversation avec Anne Carlet.
Non, pas complètement.
D'accord. Donc, la Fédération, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire s'engage pour la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap. Vous-même, Anne Abbé-Denisseau, est-ce que vous constatez que la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap est bien plus mauvaise que celle du reste de la population ?
En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas aussi carré. En réalité, l'enfant va présenter plutôt moins de caries que la population classique. Tant qu'il va rester enfant et bien suivi par sa famille, il aura plutôt moins de soucis.
Oui.
Parce que la prévention marche bien, que c'est des enfants qui sont encadrés. Et dans la mesure où les établissements font l'hygiène bucco-dentaire et apprennent aux jeunes à se brosser les dents, ça fonctionne très très bien. Par contre, on va voir des dégradations assez rapides après dans le temps, dans la mesure où, petit à petit, la volonté des parents et des centres, c'est de les rendre autonomes. Et malheureusement, on confond autonomie et capacité à maintenir son hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire qu'on peut être capable d'aller travailler en ESAT, on peut être capable d'avoir une vie sociale classique, et pour autant, la personne handicapée ne va pas forcément prendre conscience de l'importance de se brosser les dents tous les jours. Et là, on va voir les dégradations arriver assez vite et du coup, les chiffres deviennent rapidement assez mauvais parce que les soins sont quand même un peu plus compliqués sur ces personnes et on ne va pas toujours être capable de remplacer, réparer correctement ou mettre une prothèse. Et là, on va voir les délabrements arriver beaucoup plus vite. C'est vrai que maintenant, les personnes handicapées vieillissent, ce qui n'était pas le cas avant. Ils arrivent à des moyennes de vie qui s'approchent, qui ont considérablement augmenté. Maintenant, on a les personnes handicapées âgées. Et malheureusement, ils vont arriver avec pas de dents ou très peu de dents ou pas d'appareil.
Oui.
Voilà. Et donc avec des pertes de chance importantes et une perte de qualité de vie importante.
Oui. Il y a des distinctions à faire entre les différents handicaps moteur, handicap mental, handicap psychique ?
On pourrait, mais c'est un peu moins. On peut pas être carré comme ça. Si on prend l'exemple de la trisomie qui est le plus courant dans la société, vous avez des patients trisomiques qui vont être très très autonomes effectivement et très attachés à leurs dents et qui vont faire ce qu'il faut. Et à l'inverse, à l'autre bout de la chaîne, vous avez des handicapés trisomiques qui vont avoir aussi des syndromes autistiques et du coup, eux, ça va être encore plus compliqué. Donc, nous, les dentistes, en fait, on ne voit pas les gens, enfin, je pense que Anne le dirait comme moi, on ne voit pas les gens en fonction de leur handicap, on voit les gens dans leur capacité à comprendre qu'il faut qu'ils suivent l'hygiène ou pas. Et dans leur capacité à accepter nos soins ou pas. Et finalement, le handicap, pour nous, il est dans l'accès aux soins.
Oui, c'est-à-dire qu'une personne autiste qui a une carie, c'est pas forcément possible de la soigner. En tout cas, vous pourrez pas forcément la soigner en cabinet comme ça.
Oui, sauf si, dès le départ, effectivement, on a réussi à mettre de l'hygiène en place. Il a l'habitude d'avoir une brosse à dents dans la bouche. Il vient régulièrement chez le dentiste, il connaît les lieux. On a fait des consultations blanches et là, on va faire la carie. Donc, il y a vraiment une prise en charge de départ qui est hyper importante. Et c'est vrai que... alors, c'est compliqué pour les familles. Vous avez un enfant qui est handicapé, vous devez gérer ce handicap, c'est déjà très lourd pour vous. Et après, on vous dit, si les dents, c'est important. Ben oui, c'est important parce que c'est ça qui va les maintenir en bonne santé. Et qu'on ne peut pas dissocier la santé dentaire et la santé générale.
Oui.
Et particulièrement dans l'handicap, parce que si on loupe une carie, que la dent se nécrose et qu'on ne s'en rend pas compte, on va avoir des foyers infectieux qu'on ne va pas voir. Et c'est particulièrement évident dans tous les handicaps qui vont avoir une consonance psychique, où on va avoir des problèmes de comportement. Tout d'un coup, un patient va devenir agressif, on ne va pas comprendre pourquoi. Et en fait, quand on va y regarder de plus près, il a des soins infectieux, il a mal régulièrement, ce n'est pas forcément évident. Ça perturbe son comportement. Mais il ne va pas forcément être capable de vous dire que c'est là qu'il a mal, en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est pour ça que maintenir l'hygiène, garder la capacité masticatoire. On sait maintenant que le nombre de dents que vous avez, il y a une relation avec votre capacité à vivre longtemps, par exemple.
Ah oui.
Alors, c'est des choses qui sont encore en recherche, mais c'est devenu assez évident. Et finalement, quand on y réfléchit, ça s'explique relativement bien, parce que votre appareil manducateur, s'il marche bien, vous pouvez bien vous alimenter, vous pouvez avoir un bon équilibre, vous pouvez avoir une bonne vie, une communication efficace, alors que si vous ne l'avez pas, ça devient beaucoup plus compliqué, ça.
Oui. Les problèmes que rencontrent ces populations, justement, qui n'ont pas une bonne hygiène bucco-dentaire, ça, on parle de carie, on parle d'abcès, on parle de quoi ?
La carie, c'est un des phénomènes, mais ce n'est pas le seul. Il y a tous les problèmes de gencives qui vont avec, qui provoquent aussi des infections parfois importantes. Et actuellement, on sait d'ailleurs que la maladie parodontale est un risque pour la santé générale au moins aussi important que le risque carieux, puisque le risque carieux est relativement facile à circonscrire, alors que la maladie parodontale, elle crée un niveau inflammatoire très important, et du coup, il y a plein d'autres facteurs qui sont touchés par ça, et votre sensibilité aux infections, à votre santé en général, sont touchés par ce phénomène-là.
Oui. Restez avec nous, Anna Benedizzo. Anne Carlet, vous êtes évidemment d'accord avec ce que dit Anna Benedizzo.
Absolument.
Oui.
Alors, effectivement, Anne nous parlait des personnes en situation de handicap, en particulier les enfants, et vous abordiez la problématique du soin. Alors, les soins en cabinet dentaire, effectivement, peuvent être extrêmement compliqués, et toutes les personnes en situation de handicap ne peuvent pas être soigné en milieu ordinaire, et on aura besoin à ce moment-là de les orienter vers des cabinets qui les prendront en charge plus spécifiquement, avec par exemple le MEOPA, ou alors quelquefois vers des structures hospitalières parce qu'elles auront besoin effectivement d'être mises sous anesthésie générale pour faire les soins. Mais ce qui est super important effectivement, c'est de faire porter aux familles, effectivement, qu'elles aient vraiment à l'esprit que la prévention, ça commence dès la naissance et que les bonnes habitudes d'hygiène de vie, d'hygiène bucco-dentaire, eh bien, commencent dès le départ et que le brossage des dents, comme le disait Anne, en tous les cas, les soins d'hygiène dès que les premières dents arrivent doivent être mises en place, que la visite chez le chirurgien dentiste, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, mais également pour tout un chacun, la première visite chez le chirurgien dentiste devrait avoir lieu à 1 an.
1 an.
Dès l'âge de 1 an.
Mais oui, mais oui. Mais le petit, est-ce qu'il peut ouvrir sa bouche facilement?
Alors, ça n'est pas forcément pour regarder systématiquement dans la bouche de l'enfant, bien que certains enfants se prêtent tout à fait au jeu, mais c'est également un accompagnement de la famille. Énormément de familles ne sont pas forcément au courant d'un certain nombre de petites choses. Lorsqu'on parle de l'alimentation à certains parents, c'est vraiment le moment là de commencer à parler de l'hygiène alimentaire et des dangers que peuvent représenter certains aliments, certaines boissons, les boissons acides qui attaquent les dents, des boissons sucrées que l'on met souvent dans le biberon des enfants sans se rendre compte qu'elles peuvent être un danger pour les dents de leurs enfants, ne serait-ce que le lait. Il y a beaucoup d'enfants, effectivement, entre 6 mois et 1 an et 2 ans, qui s'endorment avec un biberon de lait dans le lit. Et donc, ça veut dire que toute la nuit, ils sucent du sucre, ils têtent du sucre. Et au bout de quelques temps, eh bien, les parents sont surpris de voir que leurs enfants ont une carie. Ben, je leur brosse les dents. Mais oui, mais toute la nuit, effectivement, l'enfant se retrouve avec du sucre autour des dents. Donc, toutes ces choses-là, eh bien, on peut l'aborder dès la visite à 1 an du petit enfant. Donc, c'est vraiment un accompagnement familial pour la mise en place de bonnes habitudes d'hygiène qui les suivront donc tout au long de leur vie.
Oui, Annabé Denisot, vous êtes également chirurgien dentiste, donc vous avez aussi des patients avec de très jeunes enfants. Il y a d'autres choses qu'on peut dire aux mamans, aux papas?
Ce qui est un peu compliqué dans le discours du dentiste, c'est que, par exemple, ce que dit Anne sur le lait, c'est tout à fait vrai. Dans un litre de lait, il y a 44 grammes de sucre, c'est énorme. Ceci dit, le lait est un bon aliment. Et ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux parents, c'est que un bon aliment ne veut pas dire « je le prends toute la journée ». En fait, c'est une question de rythme. Finalement, la question la plus importante que doivent se poser les parents, quand un enfant réclame à manger, c'est pas « qu'est-ce que je vais lui donner à manger ?» finalement, c'est « est-ce que c'est le bon moment ?»
Oui.
Parce qu'en réalité, tout ce qui va se passer pendant un des 4 repas par jour, qui sont tout à fait bien, c'est-à-dire matin, midi, 4 heures le soir, finalement, on va s'en fiche quelque part. Ce qui est important, c'est que la salive, qui est l'élément protecteur majeur de la personne, que ce soit l'enfant ou l'adulte, doit rester propre pour jouer son rôle. Et si vous intégrez de l'alimentation toute la journée, eh bien, à chaque fois, vous perdez du temps de protection par la salive, puisqu'elle va mettre du temps à redevenir protectrice. Donc, le problème, c'est pas tellement finalement ce qu'on mange, même si c'est un problème, c'est aussi à quel rythme. Et cette première consultation qu'on peut faire avec la maman à 1 an, ben, elle sert déjà à voir si la maman elle a bien repris pour elle-même après la grossesse, si elle s'occupe bien d'elle, si elle n'a pas de carie, qu'elle ne va pas contaminer son enfant tout simplement parce qu'elle-même ne s'est pas soignée. Et l'enfant, faire ouvrir la bouche à un enfant d'un an, ce n'est pas si compliqué que ça. Et à 1 an, il vient juste d'avoir des dents, il ne les a pas depuis longtemps. Donc les mesures de protection qu'on peut identifier parce que dans la famille, peut-être, on n'a pas des dents très solides. Donc, à ce moment-là, on envisagera de renforcer un peu l'émail ou repérer que peut-être le rythme de l'enfant n'est pas adéquat ou repérer les tout premiers signes, par exemple, dans le handicap, les troubles de l'oralité. C'est quand même intéressant, cette visite-là. Elle donne vraiment un point de départ. Après, je pense que dans le handicap, moi, je soigne beaucoup d'enfants petits. Ils viennent parce qu'effectivement, ils ont plusieurs caries. C'est souvent un problème familial. C'est rarement le problème d'un seul enfant. Il faut prendre en charge, effectivement, à ce moment-là, le rythme familial. Essayer de comprendre comment fonctionne la famille pour essayer de trouver quelles améliorations on va pouvoir faire qui vont leur paraître accessibles. Parce que si vous mettez un discours hyper en disant non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, c'est très compliqué. Il faut essayer de comprendre comment ils fonctionnent et comment on va pouvoir adapter leur fonctionnement pour que ça pose le moins de problèmes possible.
Et vous avez un exemple en tête comme ça ?
Pardon ?
Vous avez un exemple en tête comme ça, Anna Bédonizo, d'une situation de conseils que vous avez pu donner à des parents dans cette situation ?
Bien sûr, parce que un enfant, par exemple, si on prenait le cas du handicap, l'autisme, parfois, pour arriver à proposer à un enfant de se calmer, certains parents peuvent avoir recours à la récompense.
Oui, sucrerie.
Une fois, j'ai une maman qui m'a dit « Mais moi, je lui donne qu'un seul carambar par jour. » Mais je le coupe en 10.
Ah.
Le problème, c'est que, pour le coup, c'est pas la quantité le problème, c'était le nombre de fois.
Oui.
Donc, moi, je peux discuter avec ses parents et leur dire « Ok, le carambar, 3-4 fois dans la journée, si vous le situez juste avant le repas ou juste après, c'est pas très grave. » Mais par contre, à d'autres moments, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres récompenses ? Est-ce qu'on peut chercher des récompenses que l'enfant aime et qui poseraient moins de soucis ?
Oui.
Et on va chercher ensemble les solutions. Et on trouve en général, ils finissent par trouver. Ou alors, je peux avoir des mamans qui arrivent et qui me disent « Ah ben moi je donne pas de jus de fruits, c'est mon mari. » Ah oui, alors qu'est-ce qu'il boit votre mari ? En fait, vous vous rendez compte que on peut avoir actuellement des jeunes parents qui malheureusement sont très addicts aux boissons sucrées et n'arrivent quasiment pas à s'en passer.
Oui.
Eux-mêmes. Et donc effectivement, la bouteille, elle est dans le frigo. Donc elle est ouverte. Quand elle est ouverte, on se dit on va pas la gâcher quand même, hein. Faut la boire. Donc moi je dis aux mamans, ok, d'accord, papa, il boit des boissons sucrées. Mais on a deux vies finalement, hein. Les enfants sont là, ils sont pas toujours là, surtout les petits. Je dis achetez des canettes, n'achetez plus des bouteilles, parce que les bouteilles, ça reste ouvert et c'est tentant. L'enfant il ouvre le frigo, il les voit.
Oui.
Alors que les canettes, on l'ouvre, on la boit, c'est terminé. Voilà. Proposer au papa de boire à d'autres moments. Quand l'enfant est à la sieste, quand il est au lit. Déjà. Et puis, réfléchissez ensemble, la famille, tous ensemble. Essayez de réfléchir. Pourquoi il a du mal à se passer de cette boisson sucrée ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi lui, il n'arrive pas à dire non ? Et que les enfants, au moins, comprennent pourquoi la maman, elle a un double discours. Et elle dit oui à son mari et elle dit non aux enfants. Mais si les enfants, ils ont compris pourquoi, ils vont accepter.
Oui, oui. Anna Bédonizo, ce sont des conseils pour tous les enfants, là, des conseils de bon sens. Pour les enfants en situation de handicap, il y a des situations qui doivent être très spécifiques.
Pour les enfants en situation de handicap, on va être très vigilant sur chaque étape de l'évolution des dents, parce qu'on sait qu'il y a des dents qui vont sortir à des âges différents. Et on va être plus attentif, je dirais, que la moyenne, au fait que quand ces dents sortent, elles sortent dans un milieu sain pour qu'elles ne se carient pas en arrivant. Et pour ça, il y a des moyens. On peut utiliser une dentifrice un peu plus fluorée si on trouve qu'il y a des risques. On peut mettre des vernis. On sait maintenant que les vernis sont efficaces sur ce genre de choses.
Des vernis, c'est-à-dire ?
Du vernis que le dentiste va pouvoir poser sur la dent, qui contient un dosage de fluor très important, qui va relarguer et qui va rendre la dent plus solide.
Très bien.
Il y a aussi des salements de sillons. On peut, quand la première molaire de 6 ans sort, c'est le moment où elle est le plus fragile. Vous pensez toujours que la dent, elle sort, elle est finie. En fait, c'est pas vrai. Elle sort et elle met 2 ans à se minéraliser dans la bouche. Mais pour ça, il faut qu'elle soit dans une bouche propre. Et puis, il faut que sa morphologie soit favorable. Certaines morphologies des dents de 6 ans ne le sont pas. Elles vont retenir plus les aliments dans le creux que d'autres. Et bien là, on peut mettre une résine sur cette dent pour colmater un petit peu le fond du sillon et lui permettre d'être brossé beaucoup plus facilement, d'avoir un auto-nettoyage naturel plus évident et du coup, on limite considérablement le risque.
Voilà. Ouais.
C'est un soin qui est proposé normalement à tous les enfants de 6 ans qui le nécessitent, mais il est particulièrement important de le mettre en place chez les enfants en situation de handicap.
Oui, oui. Alors là, on parle des enfants, les adultes. Vous nous aviez dit tout à l'heure que les adultes sont en beaucoup plus mauvaise santé bucco-dentaire que les enfants, puisque les enfants sont beaucoup plus encadrés, les adultes beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les adultes ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux aidants, aux proches aidants
d'adultes ? Aux proches aidants, c'est vraiment de garder le contact avec les dentistes et de les emmener tous les ans. Et puis le dentiste, lui, pourra mettre des mesures de prévention en place. Ces vernis dont je vous parle sont aussi efficaces chez l'adulte. Et monter le niveau de fluor du dentifrice chez l'adulte, c'est simple. On a des dentifrices en France qui sont distribués en pharmacie et qui ont des dosages de fluor plus importants et qu'on peut utiliser sans aucun danger et qui vont donner vraiment une précaution plus importante. Et après, pour les proches aidants, effectivement, accompagner la personne, c'est-à-dire pas se dire « Ah ben, je lui ai dit de se brosser les dents, alors il est allé le faire. » Non, il faut regarder ce qu'il fait. Et parfois, vous allez voir que la personne, en fait, elle va brosser toujours le côté droit et jamais le côté gauche. Oui. Donc à ce moment-là, quand on est un proche aidant, on lui dit « Mais oui, c'est bien, t'as fait à droite, mais là maintenant, il faudrait que tu fasses à gauche. » Et éventuellement, évaluer le niveau de capacité à faire, c'est hyper important. Il faut réévaluer ce niveau régulièrement parce que les handicaps peuvent varier. Certains sont stables, mais d'autres, ce n'est pas le cas. Oui. Ils peuvent paraître autonomes et puis perdre de l'autonomie, ne serait-ce que parce que parfois le mouvement, s'ils ont une difficulté motrice, eh bien, ils pourront peut-être faire un côté puis jamais l'autre. Mettre en place une brosse à dents électrique, regarder avec eux, peut-être finir le brossage avec eux.
Oui.
Alors, j'ai pas dit de faire tous les brossages avec eux. Ça peut être, on va le laisser un peu plus autonome, matin, midi, mais par contre, le soir, oui, on va faire un brossage qui tient la route et qui est efficace parce qu'on sait que ça aura des conséquences si on ne le fait pas.
Oui, oui.
Donc voilà, c'est mesurer à quel point la personne a besoin d'aide en regardant ce qu'il fait et en constatant la qualité du brossage qu'il va effectuer.
Oui. Anne Carlet, vous avez entendu toutes les explications et conseils d'Anne Abbé-Denisot. Vous en avez d'autres aussi, vous, également, pour les personnes en situation de handicap, pour les aidants, pour leur santé bucco-dentaire?
Alors, concernant effectivement les aidants, alors que ce soit les aidants au sein des établissements, par exemple, lorsque l'on fait des formations auprès des aidants professionnels, on fait en sorte effectivement de mettre en place des protocoles de suivi, des protocoles d'hygiène bucco-dentaire, donc pour être au plus proche et au plus près des besoins des résidents, donc qui sont en établissement. Et ce qui est important, effectivement, c'est de réévaluer régulièrement le niveau d'autonomie de ces résidents. Lorsque l'on met en place un protocole d'hygiène pour un résident qui, comme disait Anne, pouvait être considéré comme étant autonome à un certain moment, eh bien, ce niveau d'autonomie peut évoluer avec le temps. Et donc, il est très important, effectivement, d'apporter toujours une aide adaptée aux besoins de la personne. Donc réévaluer régulièrement et accompagner effectivement au plus proche du besoin de la personne soutenue.
Oui. Est-ce que vous faites des formations pour les proches aidants, les aidants familiaux, des formations à l'UFSBD?
Alors absolument. Alors concernant les aidants, alors les aidants familiaux, c'est on les accompagne en faisant de la sensibilisation. Après, on a aussi des formations que l'on dispense auprès des aidants professionnels qui interviennent à domicile, donc auprès des personnels de SIAD, ADMR,
oui, qui rencontrent les mêmes problèmes finalement.
Tout à fait, et qui interviennent auprès de la famille et qui sont les relais effectivement, puisque ils ne sont pas là forcément tout le temps. La famille, les aidants familiaux, donc sont là souvent le week-end, quelquefois seuls, à prendre en charge leurs parents donc dépendants. Et donc ces personnels qui ont été formés en SIAD et qui interviennent à domicile peuvent donc déjà au sein de leur travail au quotidien vont pouvoir appliquer des gestes du quotidien adaptés et efficaces, et ils vont être aussi les relais de toutes ces informations, de cette prévention, de ces conseils qu'on leur donne effectivement au moment de ces formations. Ils seront le relais donc de cette prévention auprès des aidants familiaux.
Oui. Anne Abbé-Denisot, vous participez vous-même à ces formations?
Oui, ça m'est déjà arrivé. Moi, je dirais que sur le terrain, le dentiste aussi, par rapport aux proches aidants, c'est plus qu'un recours. Moi, à chaque fois que je vois un de mes patients, je vérifie toujours que le protocole est exact et j'essaie de donner des conseils pour faciliter le brossage. Je vous donne un exemple tout bête. Actuellement, beaucoup de proches aidants veulent absolument faire cracher le patient. En fait, c'est quelque chose qui finalement peut être parfois très compliqué dans le handicap.
Oui.
Cracher, ça vous paraît simple, mais en fait, ça l'est pas. Moi, je vais facilement leur indiquer que s'ils prennent une petite compresse et qu'ils enlèvent déjà le plus gros avant le brossage, eh bien, après, en utilisant du dentifrice sur une brosse à dents sèche, avec une petite quantité, ils vont pouvoir brosser les dents, enlever l'excès avec la compresse et s'arrêter là, parce que finalement, qu'il reste un petit peu de dentifrice avec du fluor, ça m'arrange, parce que c'est quelque chose qui va aider à garder les dents plus solides. Et dans ce cas-là, le rinçage n'a finalement aucun intérêt et ne fait qu'ajouter de la difficulté et du temps.
C'est nocif le dentifrice pour l'organisme ? Enfin, je veux dire, on peut l'avaler sans souci ?
Pas en France. En France, ce n'est pas nocif. Il y a des règles extrêmement précises. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les produits. Et non, ils ne sont pas du tout nocifs. De toute façon, on va bien leur dire que la quantité à mettre, quel que soit le dentifrice qu'on va utiliser, elle n'a pas besoin d'être importante. C'est vrai qu'à la télé, vous voyez toujours, ils mettent tout le long de la brosse à dents, mais en été, il faut adapter les dosages.
Oui.
Sur ces patients-là, souvent, le mettre dans la largeur de la brosse à dents, si vous ne l'avez pas mouillé, ça suffit.
Oui.
Parce que quand vous la mouillez, en fait, le dentifrice ne reste pas sur la brosse à dents. C'est ça ce qui se passe. Tandis que si vous laissez la brosse à dents sèche, il va bien rester sur la brosse à dents et du coup, il fera bien son effet. Et il n'y aura pas besoin d'en mettre beaucoup pour être efficace.
Oui, donc on ne mouille pas la brosse à dents, c'est mieux.
Mais non, on ne mouille pas la brosse à dents, mais ça c'est valable même pour vous.
Oui, mais je retiens, j'écoute très attentivement et je retiens Annabé Denisot. Alors on a parlé pour aider les aidants de brosse à dents électrique, de ouais, bancs de brosse à dents avec un manche ergonomique. Il y a d'autres choses également ?
Vraiment, quand Anne dit qu'il faut adapter le protocole au handicap, ça c'est complètement.
On vous entend beaucoup plus mal, Annabé Denisot.
Adapter la méthode au handicap, ça c'est vraiment important. Ça dépend de la capacité de la personne à accepter qu'on lui fasse le brossage, d'accord ? Donc si on n'a pas beaucoup de temps parce que c'est quelqu'un de plus récalcitrant, effectivement, on pourra parfois se contenter de passer cette lingette pour bien nettoyer les surfaces déjà extérieures. Et si un jour vraiment c'est difficile, on va faire peut-être que ça. Et le lendemain, on va brosser. C'est vrai que la brosse à dents électrique, c'est une aide pour les aidants parce qu'au moins, ils n'ont pas besoin de se concentrer sur le mouvement. Ils ont juste à mettre la brosse à dents en face de la surface à nettoyer.
Oui.
Ça, c'est quand même une aide parce qu'il faut déjà qu'ils se concentrent sur maintenir l'attention de la personne pour qu'elle accepte de rester avec elle, rester bien en lien avec elle. Pour qu'elle accepte le brossage. Donc, si en plus elle doit s'amuser à tenir, c'est vrai que c'est plus compliqué. Après, la brosse à dents manuelle, ça marche aussi, mais ça dépend des personnes. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Non, il n'y a pas de miracle. Mais il faut toujours faire quelque chose. Je pense qu'il ne faut jamais lâcher et ça donne de très, très bons résultats.
Et une question pratique, est-ce qu'on se lave les dents deux ou trois fois par jour ou quatre fois ? Combien ? Combien de fois ?
Alors, en établissement, moi, je vais vous dire, l'idéal, ce serait de faire matin et soir.
Oui.
Après, on peut leur demander de le faire à midi tout seul, et puis s'ils le font, tant mieux. Je crois que le brossage le plus important, c'est toujours celui du soir. Pourquoi ? Parce qu'on reste toute la nuit avec les dépôts. Évidemment, c'est bien plus efficace pour faire des
paris. Oui.
voilà. Après, on va adapter les protocoles en fonction des personnes. Et de leur capacité à faire, de leur capacité à supporter et de leurs besoins. Vous avez des gens qui ne brossent pas leurs dents, qui vont boire des boissons sucrées et qui n'auront jamais de caries de leur vie. Ça existe.
Oui, c'est injuste.
Ça existe. L'un et d'autres, ils vont brosser leurs dents tout le temps, trois fois par jour, ils auront quand même des caries.
Oui.
Il y a une variabilité tellement grande dans la population générale, donc aussi bien dans le handicap, on va se retrouver avec les mêmes situations. Voilà.
D'accord.
Mais je crois que le maître mot de notre prévention sur le handicap, c'est l'adaptation. Hein. Bien analyser la situation et s'adapter.
Ouais. Annabé Denisot, vice-présidente de l'UFSBD, un dernier mot avant de conclure avec vous.
bien, moi, je me suis toujours dit, jamais lâcher l'affaire, en fait. On peut être, ne pas avoir d'a priori. On arrive devant un patient qui a un handicap ou qui est en situation de handicap, et on peut se dire, oh là là, ce handicap, j'arriverai à rien faire. Et en fait, eh bien, c'est souvent faux. Vraiment, si j'ai appris quelque chose dans la situation de handicap des patients, c'est que l'a priori, c'est un frein. Il ne faut pas avoir d'a priori. Il faut décider que oui, on va essayer de faire quelque chose, et on voit qu'on peut s'améliorer, et on voit qu'on peut, on arrive toujours d'une manière ou d'une autre. Il faut du temps parfois, mais on y arrive.
Oui.
Je suis souvent surprise de ce qu'on arrive à faire.
Oui, merci Anna Bédonizo de ces explications, de tous ces bons conseils. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
Au revoir, docteur Anne Carlet. Vous restez avec nous encore quelques minutes. On n'a pas tout à fait fini. Vous avez d'autres conseils en plus de ceux donnés par Anna Bédonizo, d'autres réflexions?
Alors, ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Anne. C'était vraiment l'adaptation au cas. Et comme disait Anne, et effectivement, je reprends ces mots parce que c'est vraiment super important, c'est ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Et ce qui est impossible une journée ne le sera pas forcément le lendemain. Et donc, l'idéal, évidemment, c'est, comme le disait Anne, c'est 2 brossages par jour. Donc ça, c'est pour tout le monde. Le matin, après le petit déjeuner.
Même pour nous, c'est 2 brossages.
D'accord. C'est 2 brossages par jour. Si on peut effectivement faire en plus le brossage après le repas de midi, c'est essentiel. Mais en tous les cas, ce qui entraîne des caries, c'est la plaque dentaire et les bactéries qui sont dans cette plaque dentaire. Cette plaque dentaire qui est un mélange de salive, de micro-organismes, de résidus de nourriture sur la dent, elle est la plus nocive au bout d'une 12 d'heures. Donc si vous vous brossez les dents le matin et que vous vous brossez les dents le soir, au moment où cette plaque va commencer à devenir la plus active et la plus dangereuse, eh bien, vous allez normalement limiter le risque d'avoir des caries. Alors, si après le repas de midi, vous pouvez vous brosser les dents, c'est encore mieux. Mais effectivement, les 2 brossages par jour, c'est vraiment ce qu'il faudrait normalement mettre en place.
Une petite précision, le matin, parfois, on mange juste un fromage blanc ou un fruit. Il faut se brosser les dents après ?
Ah, tout à fait.
Tout à fait.
De toute façon, vous avez de la plaque qui s'est développée pendant la nuit, des bactéries qui sont logées. Vous avez fait une prise alimentaire. Alors, lorsque l'on ne peut pas, effectivement, se brosser les dents, pour une raison ou pour une autre, la première chose à faire, effectivement, c'est se rincer la bouche avec de l'eau. On a toujours toute cette petite bouteille d'eau avec soi. Donc, on se rince la bouche avec de l'eau. Ça, c'est vraiment la chose que l'on peut faire quand on ne peut pas se brosser les dents. Et puis, éventuellement, compléter ce rinçage en mâchant un chewing-gum pendant 15 à 20 minutes, chewing-gum sans sucre, bien évidemment.
Sûr.
Le fait de mâcher le chewing-gum va vous faire saliver. La salive est quelque chose de super important, comme le disait Anne. C'est vraiment un élément protecteur avec ces minéraux qui vont venir reminéraliser la surface des dents. Eh bien, à la fin d'un repas, pendant le repas, on a beaucoup de salive. À la fin du repas, on a une diminution de la quantité de salive. Le fait de mâcher, de mastiquer un chewing-gum, quand on n'a pas pu se brosser les dents, va maintenir un niveau de salive assez important dans la bouche, qui va permettre effectivement de limiter les attaques acides sur les dents. Donc, vous pouvez y aller quand on ne peut pas se brosser les dents, se rincer la bouche avec de l'eau et éventuellement compléter avec un chewing-gum que vous pouvez mâcher pendant 15 à 20 minutes.
Ah oui, c'est énorme, 15 à 20 minutes.
Oui, si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes.
Peu importe. <Parce qu'on peut.
rire> Voilà. En général, on les garde souvent plus longtemps que ça, on ne s'en rend pas compte. Donc,
reste dans un coin de la bouche, c'est efficace ?
Non, c'est le fait de mastiquer.
Oui, c'est de mastiquer.
C'est le fait
oui.
de mastiquer, effectivement, qui fait saliver. Si vous le laissez dans le coin de la bouche,
ça ne sert
pas
à
grand chose.
Voilà. De bons conseils, donc. Et puis le fil dentaire. Alors, j'imagine que le fil dentaire, il faut vraiment l'utiliser.
Le fil dentaire, c'est vraiment le complément à l'hygiène indispensable. On dit le fil dentaire une fois par jour. Alors normalement avant un brossage, alors que ce soit avant le brossage du matin ou avant le brossage du soir, donc une fois par jour, le fil dentaire va éliminer tout ce qui se met entre les dents et que les poils de la brosse à dents ne peuvent pas déloger.
Et donc, c'est avant le brossage ?
Oui, normalement avant le brossage, ce qui permet de dégager, de libérer les espaces interdentaires. Et lorsque vous vous brossez les dents avec le dentifrice. Donc le dentifrice et le fluor contenu dans le dentifrice qui nous importe va pouvoir effectivement aller dans le maximum de zones donc libérées par son passage.
Oui. Anne Carlet, on va conclure l'émission, mais je voulais qu'on revienne sur ces aidants, ces proches aidants ou même des aidants professionnels qui voudraient venir vers vous, l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire, pour avoir des conseils, pour suivre une formation, comment procéder, qu'est-ce que vous proposez?
Alors, il y a un numéro de téléphone, donc vous allez sur internet, vous regardez UFSBD et donc vous allez trouver le numéro de téléphone et là, on peut effectivement vous accompagner dans la mise en place d'un projet, projet de formation, projet de sensibilisation. Donc, on adapte notre offre de prévention donc aux besoins et à la demande donc des personnes qui viennent vers nous. Alors, l'UFSBD, donc... c'est une fédération qui a des entités, des unités dans les départements. Donc, si un établissement dans un département souhaite effectivement mettre en place une formation, il peut aller sur le site donc de l'UFSBD départemental. Il trouvera un numéro de téléphone et il pourra s'adresser directement à son UFSBD départemental donc pour mettre en place son projet.
Oui, très bien, parfait. Mais merci de ces informations. Allez-y.
Nous avons aussi un site, donc sur le site de l'UFSBD. Donc vous tapez UFSBD sur internet et vous avez accès à tout un tas d'informations. Vous avez des fiches qui sont mises à disposition du public, donc des fiches, des petites vidéos qui peuvent permettre effectivement d'avoir accès à bon nombre d'informations et tous les messages de prévention que l'on porte, effectivement, vous allez pouvoir les trouver sur le site.
Voilà, et puis il y a des petites choses pour les aidants, précisément.
Tout à fait.
Voilà. Merci Anne Carlet. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste, secrétaire général de l'UFSBD. Vous étiez notre invité aujourd'hui sur Vivre FM.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.